Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la chute de Salomon. On peut parler de la chute de Salomon, de son royaume, mais de lui-même, hein, de la chute de Salomon. Alors, vous connaissez bien l'histoire de Salomon. Seulement, c'est vrai que souvent, quand on parle de Salomon et de sa chute, on parle de toutes ses femmes. Mais il n'y avait pas que ça. Il n'y avait pas que ça, et on va voir d'autres choses. Parce qu'évidemment, toutes ces femmes l'ont poussé vers d'autres dieux. Mais vous allez voir que c'est beaucoup plus grave que ça. Bien sûr, c'est grave, hein. Parce que, attention, sur le mont des Oliviers, il a mis le culte à Moloch, il a mis un tas de choses. Hein, donc, le poteau d'Achéra, enfin, toutes ces choses-là. Mais. C'était combiné avec d'autres choses qui étaient au moins aussi graves. Et donc, on va voir pourquoi il est tombé et pourquoi ça fait faire un bond en arrière de tout Israël de plusieurs siècles. Alors, on va d'abord commencer par quelques explications avant d'entamer l'hébreu au tableau. Donc, je vous rappelle, hein, que Salomon a été le plus grand roi d'Israël. Il a régné 40 ans sur un pays qui avait été unifié par son père, David, qui lui-même avait régné 40 ans. Et avant David, c'était le roi Saül qui a régné aussi 40 ans, 3 fois 40 ans. Hein, d'accord ? Alors, il avait reçu la sagesse, et cette sagesse était tellement connue que la reine de Saba a fait le déplacement pour venir le voir, et elle a été convaincue de cette sagesse de Dieu. Alors, Salomon a écrit 3 livres à 3 périodes de sa vie. Le Cantique des Cantiques dans sa jeunesse, le livre des Proverbes à l'âge mûr, et enfin le livre de l'Ecclésiaste dans sa vieillesse. Voilà, 3 épisodes. Et Salomon aurait écrit entre 3 et 5 000 proverbes. Et beaucoup ont été perdus. Voilà. Alors, on se demande comment ça se fait. Parce que normalement, dans la vie d'une personne, la sagesse, et mûri à la fin de sa vie. Et là, il a reçu la sagesse, et à la fin de sa vie, il la perd. C'est vraiment étrange. On ne comprend pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et les conséquences... Alors ça montre une chose importante, hein, très importante, c'est que dans la vie de quelqu'un, ça n'est pas le début qui compte, mais la fin. Ça, je l'ai déjà dit un certain nombre de fois, mais c'est comme ça, hein. C'est la fin. On peut se prendre le pied dans le tapis pendant sa vie, ça arrive. Nous sommes comme ça, nous sommes des pécheurs, on fait des erreurs, mais on a le droit aussi de demander pardon et de se redresser, mais c'est la fin qui compte. Alors, les conséquences de sa chute ont été dramatiques. Parce que le cours de l'histoire a changé. Normalement, il n'aurait pas dû tomber. Et normalement, vous vous rendez compte, les conséquences de sa chute, ça a été de voir le royaume du peuple d'Israël coupé en deux, avec toute la partie du nord qui va s'effondrer, parce qu'ils vont inventer une nouvelle religion. Donc, vous voyez que si l'Éternel est dans l'histoire, c'est vrai, il est dans nos histoires, mais c'est nous qui faisons l'histoire. Et donc, ce sont les hommes qui font l'histoire, et quelquefois, nous commettons de telles erreurs que le cours de l'histoire est changé et devient dramatique. Alors, je lis, parce que les versets que j'ai pris pour cette fois, ça ne parle pas des femmes étrangères. C'est tellement connu, les femmes étrangères, que autre chose. Mais je vous le lis quand même, hein. Le 1 roi 11, 4. C'est au temps de sa vieillesse que les femmes de Salomon entraînèrent son cœur vers des dieux étrangers, de sorte que son cœur n'appartint point sans réserve à l'Éternel, son Dieu, comme le cœur de David, son père. Et en général, c'est ce verset-là le plus connu, et en général, on s'arrête là, on se dit, bah oui, c'est à cause de ça qu'il est tombé. Ça n'est qu'un morceau des choses. Et sa chute va être son déshonneur, va être déshonoré. On peut dire que à la fin de sa vie, il perd son âme. Et vous allez voir que il y a vraiment quelque chose, on le voit dans l'hébreu, qui est absolument dramatique. Alors, l'expression Elohim Acharim veut dire d'autres dieux. Elohim Acharim. Et on retrouve cette expression, parce que là, il entraînait son cœur vers d'autres dieux. C'est dans le verset qu'on vient de lire. Mais on le trouve déjà dans le premier commandement. Hein, dans Deutéronome 5, 7, tu n'auras pas d'autres dieux devant mes faces. Hein? Alors, je vais vous écrire un mot au tableau qui veut dire autre, d'autres dieux. Hein? Bon, c'est pas très simple avec. Alors, Aleph avec un A bref, un Chet avec un E, et je mets un grand Resh. Je fais exprès de mettre un grand Resh. Alors, si vous pouvez lire ce mot, Acher. Hein? Voilà, comme ça. Ça veut dire autre. Donc, vous voyez que dans les deux versets, là, tu n'auras pas d'autre Dieu, c'est ce mot-là. Maintenant, je vous écris un autre mot. Avec des lettres qui ressemblent, regardez, Aleph. Bon, les voyelles sont différentes, mais vous savez que dans le Tanakh, il n'y a pas de voyelles. Donc, imaginez ces mots sans voyelles. Avec un Ségol, ici, le Aleph. Et puis, un Chet, avec un E. Et là, je vais mettre un grand Dalet. Regardez comme ça ressemble. Et ça veut dire quoi? Excusez-moi, j'ai fait. C'est un A long ici en dessous. Echad. Donc, Echad. Voilà. Autrement dit. Si vous faites une toute petite faute d'orthographe, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Vous vous trompez, au lieu d'un rêve, vous mettez un dalet. Ça veut dire tu n'auras pas de Dieu hein, devant ma face. Wow. Autrement dit, on peut très bien basculer du Dieu 1 aux autres dieux très facilement par une petite erreur. Et spirituellement, ça a du sens, hein. Ni un seul trait de lettre. Regardez. Juste ça. C'est fou, hein? Il faut le voir en hébreu.
C'est quoi le Tanakh?
Le Tanakh, c'est ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Alors, je vous ai donné, je pense que vous avez tous un document, je vous ai donné au début du cours, et dans lequel j'explique ce que c'est le Tanakh. Alors si tu ne l'as pas, si tu n'en as plus, tu me le dis, je ne t'en donne rien. Alors, je vais boucher mon crayon pour qu'il ne sèche pas et je vais vous rappeler des choses. Vous savez que dans le Tanakh et dans le Deutéronome, Dieu savait qu'un jour son peuple demanderait un roi. Autrement dit, que ce peuple en aurait assez de la royauté de Dieu et qu'il demanderait un roi en chair et en os. Et il a donné des conditions. Mais d'abord, il a donné des conditions à tout le peuple. Il a dit, voilà, je vous donne le pays de Canaan. Et il faut chasser. Hein? Je vais faire un petit aparté. C'est important ce que je vais dire. Une petite aparté. Vous savez que quelquefois on dit tout est... vous êtes une nouvelle créature, etc. Tout est accompli. Moi, je vous dis, c'est pas vrai. Pourquoi ? Vous êtes une maison. D'accord ? Vous représentez comme une maison. Dans la maison, il y a peut-être des toiles d'araignée. Il y a peut-être des vers dans les poutres. Il y a peut-être des bestioles qui dans la cave. Des tas de choses. D'accord ? Et vous appartenez au diable. Ça, c'est avant la conversion. Hein. Un jour, vous rencontrez Yeshua. Que se passe-t-il ? Yeshua va chez le notaire. Avec vous, éventuellement. Il va chez le notaire et il signe un papier, changement de propriétaire. Ça y est, vous appartenez à Yeshua. Votre esprit est connecté à l'Esprit de Dieu. Vous êtes né de nouveau. D'accord ? Est-ce que les toiles d'araignée sont parties ?
Ah non.
Eh bien non. Mais maintenant qu'il y a un nouveau propriétaire, on peut commencer le nettoyage. Voilà. Vous avez compris ? C'est simple ? Donc, tout est en train de devenir nouveau. Mais c'est vrai que vous êtes né de nouveau. Ça, c'est vrai. Mais maintenant, il faut nettoyer le corps et l'âme. Hein. Bon, je tenais après. Alors, quand Dieu envoie son peuple sur la terre qui va devenir la terre d'Israël, il y a les Cananéens, tous ces gens-là. Et il dit dans Deutéronome 7, versets 3 et 4, « N'épouse aucun d'eux. Ta fille ne la donne pas à son fils et sa fille ne la fait pas l'épouse du tien. » Car ils détacheraient ton fils de moi, et ils adoreraient des divinités étrangères, et la colère du Seigneur s'allumerait contre vous, et il y aurait bientôt, et il vous aurait bientôt anéanti. Alors, vous savez que 1000 femmes, enfin, il y avait des concubines, mais c'est un nombre symbolique. Rahim nous a dit, c'est un nombre typologique. C'est-à-dire que ça a un sens. Faut comprendre derrière ce que ça veut dire. Hein? Et en tout cas, ça veut dire que Salomon aimait beaucoup les femmes, et pas n'importe lesquelles, parce que c'était des princesses. Hein? Il choisissait. C'était des alliances politiques, hein, derrière. Et l'Écriture interdisait, surtout au roi, d'avoir beaucoup d'épouses. Alors, il y avait 3 interdits pour les rois. Et je vais vous les donner. Parce que c'est là que c'est important. On voit ça dans Deutéronome, chapitre 17, versets 16 et 17. Ça parle des futurs rois. Il ne doit pas multiplier pour lui les chevaux. Pourquoi les chevaux ? Eh bien, parce que c'était la marque de la puissance de l'Égypte. Avec ça, elle faisait la guerre. Et c'est pas pour rien que le Seigneur, lui, il est venu sur un âne, hein, pas sur un cheval. D'accord ? Donc, je reprends, il ne doit pas multiplier pour lui les chevaux et ne pas ramener le peuple en Égypte pour en augmenter le nombre. C'est en Égypte qu'il y avait les chevaux et on allait les acheter là-bas. L'Éternel vous ayant déclaré que vous ne reprendrez plus ce chemin-là désormais. On ne retourne pas en Égypte. Il ne doit pas multiplier pour lui les femmes, donc les chevaux, les femmes, de crainte que son cœur ne s'égare. Et troisième chose, il ne doit pas multiplier pour lui l'argent et l'or. Il n'en amassera pas outre mesure. Voilà. Alors, si vous connaissez l'histoire de Salomon, ces trois trucs-là, il les a fait. Hein. D'accord ? Alors, l'histoire biblique nous enseigne que Salomon a transgressé ces trois choses. Les chevaux, ce sont des animaux de guerre. En avoir beaucoup faisait de Salomon un roi semblable à Pharaon. Les femmes, plusieurs mariages partagent le cœur. C'est comme si on épousait plusieurs dieux. Et puis, l'argent et l'or. Moi, j'ai jamais compris comment on peut avoir deux femmes. Moi, j'ai pas deux cœurs. Ben, c'est vrai, quoi. Comment on peut faire ?
Ben, c'est vrai.
Bon, c'est tellement sale. Bon, enfin, bref. L'argent et l'or. La richesse donne beaucoup de pouvoir, de possibilités, comme les puissants de ce monde. Et le roi d'Israël, de tout Israël, ne doit dépendre que de Dieu. Et je vous rappelle une dernière chose, c'est que les rois de tout Israël devaient recopier la Torah pour eux-mêmes. Donc, il connaissait la Torah. Il ne pouvait pas faire autrement, c'était écrit dans la loi. Hein? Alors, le trône. Ouais, avant de commencer des versets, on fait des petites choses. Hein? Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mon crayon ? Regardez, j'écris un mot, un kaf avec un dagesh dedans, et un i, un samer avec un e, et un aleph. Donc ici, vous pouvez lire le mot kissé. Kissé, ça veut dire trône, c'est le trône. Hein? Donc, je l'écris. Qui c'est ? Voilà, c'est le trône. D'accord ? Bon. Vous savez que les Juifs, ils ont une façon de faire, c'est qu'ils vont prendre les trois lettres et ils vont dire, bah oui, ça me fait penser à ça, ça c'est autre chose, ça c'est autre chose.
Regardez si la porte n'est pas entrouverte.
Non, ça passe à travers tout. C'est vrai. Hein? C'est une prière. C'est une prière qui monte à travers tout. Ah, ils sont derrière la porte. Ah oui. Alors, la lettre Kaf, ça fait penser. Regardez. Kaf avec un dagesh dedans, un A long, Bet avec un O bref, et Dalet. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Kavod, c'est saint. Saint.
Alors, Kavod. Kavod, ça veut dire saint, mais ça veut dire mis à part. Je vous rappelle que la sainteté, c'est la mise à part. Ça n'est pas être parfait. Nous, les chrétiens, on a mal compris ce mot. On dit être saint, c'est être parfait. Non. Être saint, c'est être mis à part pour Dieu. Mais c'est ça, sanctifier, c'est être mis à part pour Dieu. Alors, donc ça veut dire qu'il est mis à part, d'accord ? C'est important, hein, le roi est mis, pour être sur le trône, il doit être mis à part. Ensuite, ici, sa mère, ça fait penser à un mot très connu en hébreu, qui est sous. Regardez, sa mère ou sa mère. Sous. Sous, ça veut dire cheval. Cheval, ça veut dire qu'il ne doit pas avoir beaucoup de chevaux. Donc la puissance du monde, c'est pas pour lui. La puissance vient de Dieu. Je rappelle que le trône du roi d'Israël, de tout Israël, est équivalent au trône de Dieu. C'est son image. Hein? Et devant le trône, alors la base du trône de Dieu, c'est la justice, et devant le trône de Dieu, c'est l'amour. La justice et l'amour, c'est la balance. Donc, et le troisième, la troisième lettre ici, c'est Aleph, avec un I, un Shin, avec un A long et un He. Isha.
C'est la femme.
Donc pas beaucoup de femmes. D'accord ? Donc voilà, ici, trois choses pour pouvoir monter sur le trône. Maintenant, s'il monte sur le trône, il vient Meler. Ça vient le roi. Vous allez voir. Et vous allez voir que c'est valable pour nos dirigeants à nous maintenant. Hein. Je peux effacer ? Alors, je vais écrire Meler. Donc, un même avec un E. C'est un E ségol. Lamed avec un ségol et un kaf final. Meler, ça, ça veut dire roi. D'accord ? Alors pareil, il y a trois lettres. Regardez. Et vous pouvez penser à nos présidents, hein, parce que ce sont des rois du monde, hein. D'accord. Le premier, la première lettre fait penser au mot Mohar. Alors je l'écris. Un même avec un dagesh dedans et un O. Un chet avec un A bref. Mohar. Mohar, c'est un petit mot qui veut dire cerveau. Vous allez me dire, ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire qu'il doit maîtriser ses pensées. Ah oui, parce que... Oui. Donc, il doit, pour être roi, il doit maîtriser ses pensées. Deuxième chose, la lettre lev, lamed. Alors, on forme le mot lev. Lev, lamed avec un e et un bet. C'est un tout petit mot, hein. C'est le cœur. Le cœur, ça veut dire il doit maîtriser ses sentiments. Et le troisième. Le troisième, Alors vous allez dire, oui, ça peut être le corps, mais vous allez voir, c'est drôlement plus précis. Alors je vous écris le mot. Un kaf avec un dagesh dedans et un sheva. Lamed avec un A bref, yod et un O long, et atav. Alors vous avez essayé de lire ça. Alors c'est un pluriel féminin, vous voyez ? Hot. En hot, c'est un pluriel féminin. Hein ? Alors, les juifs disent klayot. Klayot. Ben, je vais vous dire ce que c'est, ce sont les testicules. Donc, il doit maîtriser tout ça.
C'est
la
sexualité.
Ouais. Eh oui. Donc, vous voyez ? Parce que si on maîtrise ça, on maîtrise tout le reste.
Je suis les trois dimensions, quoi.
Ah oui, oui, non, mais c'est clair. Hein? Ah, c'est très précis, mais la Bible est beaucoup plus crue que les traductions qu'on en fait. Voilà, donc alors vous savez que donc Salomon va tomber de trois côtés et Dieu lui dit dans 1 Rois 11:11, et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte, que tu n'as pas respecté mon pacte et mes défenses que je t'avais faites, je t'arracherai la royauté et je la donnerai à ton serviteur. La vraie traduction, c'est je couperai. Couper, je couperai ta royauté. Vous savez, c'est un hébraïsme. Par exemple, quand le serpent vient séduire Ève, et qu'il dit de mort, mourir. De mort, vous mourrez. Donc, c'est un hébraïsme, ça. C'est dit deux fois. De même que Jésus dit en vérité, émet ve émet. C'est comme ça. Donc, ici, c'est couper, je couperai ton royaume. Et c'est donc la sanction, et il va donner une grande partie du royaume à ce serviteur qui est appelé Jéroboam. Et Jéroboam va changer le culte du royaume du Nord, mais complètement. Hein. Il va décaler les dates, il va mettre deux veaux d'or, un dans la ville de Dan, et puis l'autre à... Non, c'était pas à Bethel, c'est à la capitale, Samarie. Et donc, la fête des montées est décalée d'un mois, donc ça empêche tous les habitants du Nord de monter à Jérusalem. Donc, ils ne peuvent plus être en communion avec les habitants du Sud. Il y a une scission qui se fait, et ça va durer des siècles, mais ils vont être entraînés dans une telle déchéance, un tel péché, que la séparation va faire que le royaume du Nord va être dispersé. Décaler comme ça aussi les dates, excusez-moi, mais c'est ce que l'Église catholique a fait aussi, c'est empêcher la mémoire aussi. Et ça finira par perdre. C'est un désastre, et ce désastre a été provoqué par la désobéissance de Salomon. Alors, on va commencer maintenant à faire connaissance avec celui qui va avoir la partie du Nord. D'où il sort ? C'est pas n'importe qui, Jéroboam. Voilà. Alors, on prend 1 roi 16, 26 et on commence. Ça va ? 1 roi 11, 26. Excusez-moi. Je suis un petit peu dyslexique, alors je croise les lettres et les mots.
Pardonnez, mon frère.
Voilà. Je suppose que je ne suis pas tout seul. Et l'orthographe et moi, ça fait deux. Ouais. On commence par un vav avec un sheva. Un yod avec un halon. Un bet avec un halon. Avec un sheva, pardon. Il y a un resh entre deux, vous voyez. Hein. Un resh avec un halon. Un bet avec un sheva. Ein avec un halon et un même final. Ne vous occupez pas de cette petite raquette là que vous voyez. La petite raquette que vous voyez, ce sont des théamim, c'est-à-dire c'est pour s'arrêter à tel endroit, lire deux mots ensemble, ces choses-là. Hein. C'est la musique de l'hébreu. Donc vous en occupez pas, je les ai laissés. Alors, ici, si vous lisez ça, ça fait quoi ?
Il n'y a pas de boam.
Ah non, mais... Alors, V, Ya, Ra, Rav, Am. Et c'est ça qu'on a traduit, et Jéroboam. Alors, quelqu'un nous a fait un beau cadeau, nous a offert une Bible qui s'appelle la Bible juive complète, qui est traduite par David Stern. Et si vous avez une Bible comme ça, vous aurez les vrais noms dedans. Et elle est très, très facile à lire. David Stern. Vous pouvez l'avoir à la CLC.
La Bible complète.
La Bible juive complète. C'est une Bible magnifique. Alors les livres sont pas dans le même classement que nous d'habitude parce que c'est le classement juif. D'accord ? La Stuttgart, c'est une Bible en hébreu.
Oui.
C'est pas pareil. Là, c'est une Bible en français, mais qui conserve ces mots-là. D'accord. De même que Jésus, c'est pas Jésus, c'est Yeshua et compagnie. Parce qu'il y a le Nouveau Testament avec. C'est une Bible complète. Vous voyez ? Alors, on va faire connaissance de ce monsieur. Hein ? Il est... Alors, un bet avec un ségol et un nun final. Un petit tiré. Un noun avec un sheva, un bet avec un halon et un tête. Ben, c'est fils. Mais voyez qu'il est attaché et vous avez le nom de son père. Et son père s'appelait comment ? Nevat. Ben, fils de Nevat. Je ne sais pas, c'est un nom propre.
Jéroboam, c'est Yaravan.
Hein?
Jéroboam, c'est Yaravan.
Oui. Oui. Oui.
Normalement, c'est comme ça qu'on dit.
Normalement, c'est ça. Pourquoi on a changé son nom en Jéroboam, je ne peux pas te le dire. C'est les Grecs qui sont passés entre nous. Ils ont tout démoli. Et c'est l'esprit de Yavan, hein, c'est l'esprit de Yavan contre l'esprit de Tzion. Hein. Donc il faut que nous on retourne à l'esprit de Tzion. Hein. bien entendu. Hein. Alors, on continue. Bon, ça, c'est donc son père. Et ici, qu'est-ce que vous apprenez ? Aleph, avec un ségol, un P, plutôt un F, avec un Sheva, un Resh avec un Alon, un Tav avec un Ilon. Ephrati, qu'est-ce que ça veut dire ?
Ephraïm.
Ben bien sûr, c'est quelqu'un de la tribu d'Ephraïm. Je rappelle qu'Ephraïm, c'est celui qui a reçu le droit d'aînesse. C'est pas Judas qui a eu le droit d'aînesse. Judas a la royauté. Mais le droit d'aînesse est sur Ephraïm. Vous imaginez ? Et Ephraïm va se faire disperser. Toum. Il y a un problème. C'est pourquoi le Seigneur nous a donné la parabole du fils prodigue. Ephraïm, le royaume du Nord, c'est le fils prodigue qui revient à la fin des temps. Vous comprenez ? Il faut comprendre, il faut se mettre à l'époque de Yeshua. Bien sûr, nous, chrétiens, on l'interprète à notre sauce. Et on dit, c'est mon fils, le fils prodigue, parce qu'il va faire des conneries. Mais, mettez-vous dans... Quand le Seigneur, il est venu, qu'est-ce qu'il a dit ? Je suis venu chercher, ramener les brebis du royaume, de la maison d'Israël. Donc du Nord. Et à l'époque, il était dans Juda. Vous comprenez ça ? Si vous voulez beaucoup plus de détails, allez sur le site où il y a mes enseignements et écoutez les enseignements qui parlent des deux maisons.
D'accord.
Voilà. Alors, on continue pour faire connaissance avec ce monsieur. Donc, il est de la maison d'Éphraïm, c'est important. On continue, on trouve... le mot min, un trait d'union, ensuite le un e avec un a bref, un tsadi avec un dagesh dedans et un sheva, un resh avec un he, puis un dalet avec un alon. Et un hé. Comment vous lisez ça ? Mine. Mine, ça veut dire quoi ? Depuis. Ça veut dire depuis. Donc, on va savoir de où il vient. D'accord ? Donc, il est en territoire d'Éphraïm et on nous dit de où il vient. Donc, alors, ici, vous voyez qu'il y a un article. Donc, min depuis, le, la, les, on ne sait pas. Bon, moi je sais que c'est là. Atsereda. Atsereda. Tsereda, c'est certainement le nom de sa ville et ça veut dire la forteresse qui opprime. Le nom, donc, il est de la forteresse qui opprime. C'est un drôle de nom, hein ? C'est une ville, certainement, mais c'est aussi spirituellement quelque chose qui veut dire, qui a un sens spirituel, et on va comprendre. Et puis, quand on continue, on va nous donner le nom de sa mère. Tiens, pourquoi ? Peut-être pour l'honorer, mais vous allez comprendre quelque chose d'important. Donc, on continue. Un vav. Ensuite, un shin avec un e et un même final. Alors, qu'est-ce qu'on lit ? V. V, ça veut dire e. Shem. Shem. Le nom. Donc, et le nom de. Alors, un aleph avec un i, un mem avec un dagesh dedans, et un o long. Alors, là, ici, le O final, donc on lit Imo, hein. Le O final, ça veut dire à lui. Hein. Et la racine, c'est M, M qui veut dire mère. Donc, sa mère. Et le nom de sa mère, voilà. Et là, vous avez un drôle de nom. Alors, je commence. Donc, c'est un tsadi avec un sheva, un resh et un ou, ein avec un alon et un he final. Tserua. Voilà, ça, c'est le nom de sa mère. Alors, le nom de sa mère, c'est important. Parce que ça veut dire lépreuse. Lépreuse. Ça veut dire que sa mère était lépreuse. Ça veut dire que sa mère, elle se promenait sans doute avec une crécelle, là. Et puis, elle vivait dans des grottes. Fallait pas qu'on la touche, fallait pas qu'on la voie. C'était une lépreuse. Alors maintenant, vous commencez à comprendre qui pouvait passer dans la tête de Jéroboam. Ma mère, c'est une lépreuse. Ça travaille dans la tête, non ? On n'a pas le droit d'aller la voir, on n'a pas le droit de la toucher. C'est une pestiférée. C'est une pestiférée. Et la Bible le dit dans les mots, dans son nom. On l'appelait la lépreuse. Voilà. C'est dommage hein, que ça ne soit pas dans la traduction. Parce que ça change beaucoup de choses, on comprendrait beaucoup de choses. Allez, on continue. J'ai le tableau qui tourne au fur et à mesure que j'avance, moi. Je sais pas pourquoi. Mais j'ai mis les freins. Mais aujourd'hui, il n'y a pas... Non. Il ne veut pas. Pas aujourd'hui. Alors, Isha. Donc, une femme. Donc, Aleph avec un I. Bref. Ashin avec un dagesh dedans et un He. Donc, une femme. On va nous donner des détails sur cette femme. Elle est lépreuse. Donc, elle vit cachée quelque part. Une femme. Aleph avec un A. Bref. Lamed avec un Sheva. Un même avec un halon, un nun avec un halon et un hi. Comment vous dites ça? Almana. Almana, ça veut dire veuve. Donc, vous voyez, elle n'a pas de chance. Ça veut dire aussi que Jéroboam, il n'a plus de père. Il n'a pas de chance non plus. Ça fait beaucoup déjà. D'accord? Bon. On continue. C'était une veuve. Alors, Alamed avec un i bref, un shin avec un sheva. Ah oui, excusez-moi, j'en ai oublié un mot. C'était pour voir. Hein. Bon, ça va, vous suivez. Ein, avec un ségol, donc c'est un mot ségolé ici. Un bête avec un ségol. Quand il y a deux ségols comme ça, c'est un mot ségolé. Et un dalet.
C'est ça, c'est le titre.
Éved. Éved. Serviteur. Alors, on parle de Jéroboam. On parle de Jéroboam, donc on dit maintenant, donc sa mère s'appelait lépreuse, elle était veuve, et lui était serviteur. Éved. Serviteur de qui? Eh bien, un lamed avec un i. Shin avec un sheva, lamed avec un o bref, un mem avec un o bref et un he.
Lishlomo.
Donc, le lamed qui est devant ici, ça veut dire pour, vers. Donc, il était serviteur pour Shlomo. Salomon. Shlomo. Mais quel genre de serviteur? C'est ça la question. On va voir quel genre de serviteur c'était. Et ce que faisait Salomon. On va le voir. Alors, le mot suivant. On est arrivé à un vav avec un a bref, un yod avec un dagesh dedans et un halon. Faites pas attention aux petits signes là. Un resh avec un ségol. Un yod avec un halon. Ah non, c'est un mot séparé, excusez-moi. C'est un peu collé dans mon truc et... Il y a un même final. Voilà, alors on lit ça comment? Vayarem. Vayarem, c'est un verbe dont la racine est roum, qui veut dire lever, s'élever, dresser, exalter. Voilà, et c'est un verbe qui est à la forme ifil, c'est-à-dire faire l'action. Et on peut traduire ce Vayarem ici par « et il a fait dresser ». Et il a fait dresser. Donc c'est pas lui tout seul. On aurait pu dire « et il a dressé », mais non, il l'a fait dresser. Il a fait dresser quoi ? Yad. Donc ici, je mets un yod avec un A long et un dalet. Yad, c'est quoi ? C'est la main. Mais la main, ça représente la force. Il n'y a pas d'article, donc c'est une force. Il n'y a pas d'article là. Et le mot, le dernier mot, c'est un même, avec un dagesh dedans. Pardon, il y a un bête. Ouais. Un bête avec un dagesh dedans. Un A bref. Et Meller. Donc, un même avec un dagesh dedans, Ségol. Lamed, Ségol. Kaf final. Regardez cette petite phrase. Ici, Bameler. Bameler, ça veut dire dans ou vers, contre. On va regarder ce que ça veut dire. Et il a fait dresser une force contre le roi. Voilà qui est Jéroboam. On n'a pas tout vu sur Jéroboam, parce que pourquoi il a fait ça, il faut comprendre. Hein? Je voudrais maintenant faire une petite interruption et vous donner d'autres explications. Ah, on met le bouchon pour attendre. Il faut un juif hein, pour nous expliquer ça, je vous assure. Hein. Parce que on n'arrive pas à le voir, nous. David avait des ennemis. Salomon aussi. Il ne faut pas croire que ça se soit passé comme ça. Mais tant que Salomon obéissait à Dieu, il maîtrisait ses ennemis. Le jour où il a commencé à désobéir à Dieu, ses ennemis ont commencé à lui faire des chatouilles sérieuses et à l'embêter sérieusement. Et vous allez voir que nous, on parle toujours de... Ça, c'est vraiment un truc de chrétien. Hein. Oh, Satan m'a fait ceci, Satan m'a fait cela. Regardez. Tant qu'il se comporte avec justice, il arrive à maîtriser les ennemis qu'il a, parce qu'il a des ennemis. Pour comprendre l'histoire, il faut se souvenir que le roi David avait été attaqué par des Iduméens. Les Iduméens sont les descendants d'Ésaü. Et d'hommes. Je rappelle que le roi Hérode était un Iduméen. Je vous le rappelle. Il aurait d'ailleurs... Allez, je vais faire un petit rappel. Dans l'histoire des Maccabées, vous voyez que les prêtres reprennent le temple et vont battre les Grecs. Ils vont instituer, c'est une faute, la royauté des Asmonéens, qui va durer un certain temps. Et les Asmonéens ont pris des serviteurs iduméens. Et vers la fin de cette royauté, il y a un chef, certainement le chef, Iduméen des serviteurs, qui a tué tous les Asmonéens. et il s'est fait instituer roi par les Romains. Il s'appelle Hérode le Grand. C'est comme ça qu'il est arrivé au pouvoir. Et des Hérodes, vous en avez plusieurs, hein, il y en a quatre. Hein. Voilà, il y en a quatre. Il faut faire attention quand on lit les textes pour savoir de quel roi on parle. D'accord ? Alors, le roi David s'est fait attaquer par des Iduméens et il a fait la guerre. Et il a battu les Iduméens. Et je lis dans 2 Samuel 8, 14, je lis, il a mis des garnisons dans l'Idumée. Vous voyez, il a occupé. Il en mit dans toute l'Idumée, qu'il assujettit tout entière. Et le Seigneur protégea David dans toutes ses voies. Donc, il a occupé l'Idumée et il a mis des garnisons. C'est un guerrier, David. Il a versé le sang. C'est d'ailleurs pour cette raison que ça n'est pas lui qui a construit le temple. Il a dit, t'as versé trop de sang. Dieu lui a dit ça, donc c'est ton fils qui va construire le temple. Et David, lui, a préparé tout ce qu'il fallait pour faire le temple. Il a mis de côté de l'or, des pierres, des poutres, des tout ce que vous voulez. Et il nous est dit que, évidemment, imaginez ces Iduméens. Ils sont furieux. Les survivants, ils sont furieux. Arrive Salomon. Salomon, il les garde sagement de loin. Mais le jour où il commence à pécher, et ces gens-là, ils se réveillent. Et je lis, 1 roi 11, 14, le Seigneur suscita un ennemi à Salomon, ce fut Hadad l'Iduméen, qui était de la race royale de l'Iduméen. Autrement dit, il y avait échappé à David, et il y avait une rancune furieuse, et il s'est dit, à la première occasion, je deviendrai un ennemi du roi d'Israël, donc de Salomon. Et vous savez comment c'est traduit en français, ennemi, vous savez qui c'est? En hébreu. Satan. C'est Satan. C'est le mot hébreu. Je vous l'ai mis là, en hébreu, c'est Satan. Autrement dit, on pourrait dire, le Seigneur suscita Satan contre Salomon, ce fut Hadad l'Iduméen. Vous voyez que dans la désobéissance, Satan arrive et il a des droits. On a ouvert la porte, il arrive. Et c'est un homme qui est là depuis des années et des années. Et Dieu l'appelle Satan, c'est-à-dire ennemi. Parce que dans l'esprit juif, dans l'esprit oui, du peuple d'Israël, Satan n'a pas tout à fait la même signification que pour nous. Satan, c'est celui qui est un serviteur de Dieu, qui est là pour nous mettre des bâtons dans les roues quand c'est nécessaire. Vous voyez, c'est pas tout à fait pareil. Alors là, Salomon est en train de faire des bêtises. Bon, ben c'est rien, on va sortir à date du tiroir. Vous voyez ? Ça, c'en est un. Il y en a un autre. Dieu, 1 roi 11, 23, Dieu suscita encore un ennemi, donc Satan, qui s'appelle Rezon, fils d'Eliada, qui s'était enfui de Hadadézer, roi de Tsova, son maître. Donc Rezon, c'était un soldat iduméen qui avait réussi à s'enfuir de chez son maître, et ce dernier personnage, son maître, était un roi qui avait été battu par David. Mais lui, il a réussi à se sauver, et en quelque sorte, il était mis en réserve par Dieu, parce que vous savez que tout est dans la main de Dieu. Donc, il a été mis en réserve par Dieu pour le jour où Salomon désobéirait. Oui, c'est comme ça. Et donc, on voit que Hadad et Rezon, ces deux personnages, s'appelle Satan dans le texte hébreu. Donc ce sont des ennemis qui vont faire comprendre. Mais pourquoi tout d'un coup ils arrivent? Ben parce qu'ils sont là pour faire comprendre, mais Salomon, tu es en train de désobéir, fais demi-tour. C'est Dieu qui prévient, et ce sont des serviteurs de Dieu, excusez-moi de le dire, qui sont là pour prévenir, et Salomon fait demi-tour, arrête de faire ça. Donc c'est très important de le comprendre. En tout cas, ils se sont réveillés et mis en route à partir du moment où Salomon a désobéi. Nous, on appelle ça, dans le Nouveau Testament, c'est « faut pas ouvrir la porte aux malins par un péché ». Vous voyez? C'est la même chose. Hein? Exactement. Voilà. Mais Dieu ne veut pas nous tuer. Hein? Il nous éduque. N'oubliez pas que, ben je dis des évidences, mais je les dis quand même, n'oubliez pas que Dieu n'est pas un grand-père, c'est un père. Un grand-père n'est pas là pour éduquer ses petits-enfants. Hein, il peut les promener, il peut tout ce que vous voulez. Mais un père est là pour éduquer. Donc pour reprendre. Et il le fait à sa façon. Hein? La meilleure façon, c'est parce que Dieu, il est intelligent et il sait faire. Voilà. Alors, on va continuer avec Jéroboam. Donc, 1 roi 11, 28. Et lui continue à tourner. Ah, ça, c'est fort, hein? Ah, oui, mais... Le verrou, il a sauté, là. Il y avait un verrou qui avait sauté. Oui. Alors, je répète la question. Qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à comprendre que Dieu peut se servir de nos ennemis pour nous éduquer? Ben, Dieu fait ce qu'il veut. Dieu est tout puissant. Que ta volonté soit faite. Moi, je l'ai déjà raconté 100 fois, mais ce sera la 101e. Le Seigneur m'a mis au lit pendant 4 mois et 11 jours pour me faire comprendre que j'étais un activiste. Et qu'il fallait que je m'arrête. Moyennant quoi, je peux vous dire que j'ai compris. Parce que 4 mois et 11 jours à regarder le plafond, c'est long. Je vais la re-raconter, cette histoire, si vous voulez, tant pis. beaucoup la connaissent, mais ça fait rien. Je vais essayer de faire bref, parce que ma femme est remplie de sagesse, elle me dit « fais le petit ». Bon, nous étions à l'église, ça s'est passé en 84. Nous étions dans une église très active, on faisait beaucoup de choses. Oui, beaucoup, alors je m'occupais de l'école du dimanche, je faisais les études bibliques, je faisais les comptes de l'église, je faisais les poussins, c'est-à-dire avant les louveteaux. Enfin, on faisait plein de choses. Voilà. Et puis, au Nouvel An, on a fait la longue veille. Et à minuit, j'ai eu un verset. C'était « Ressaisis-toi, prends patience, ressaisis-toi ». J'ai dit « Seigneur, prends patience, j'aime pas ça ». Et « Ressaisis-toi », j'ai dit « Seigneur, mais je fais plein de trucs pour toi ». Donc, je comprends pas. Et je m'en vais faire pipi. C'est important. Parce que je fais pipi comme du Coca-Cola. Donc, je dis rien à personne, discrétion absolue. Deux jours après, je vais travailler et mon patron me dit, t'es tout jaune. Va voir un docteur. Donc, j'arrive chez le docteur, il me fait sortir dans sa cour, il regarde mes yeux, il me dit, vous avez bu. Je dis, non, j'ai pas bu. Et voilà. On va faire une prise de sang. Et puis on va commencer par 10 jours. 10 jours d'arrêt. Je dis quoi? Moi j'étais bien. Hein. Et donc, au bout de 10 jours, au bout de 2-3 jours, on a les résultats. Hein. Analyse de sang, au lieu d'avoir les transaminases à 36, et je les avais à 2600. Donc je faisais un truc dans le foie. Je me dis, c'est super. J'avais un document à préparer, je vais avoir du temps pour faire mon document. Donc je travaille à la maison. Au bout d'un mois, le médecin me dit, c'est pas normal, vous êtes tout jeune. Encore? Il m'envoie chez un spécialiste qui me fait déshabiller, il me dit, mais vous êtes tout jeune. Ben, je dis, je le sais. Hein. Et puis, ben, il me dit, vous avez peut-être un cancer du foie. Ah, là, vous avez une bombe atomique qui vous tombe sur la tête. Moi, j'ai pas dormi pendant 2 nuits. Et j'ai dit, Seigneur, je suis pas prêt à mourir, hein, parce que le cancer du foie, je sais ce que c'est. Je suis pas prêt à mourir. J'avais des petits-enfants, ils étaient jeunes, etc. Enfin bref. Et il a fallu 2 nuits pour que le Seigneur me fasse comprendre que tout ce que je faisais dans l'église, ça lui servait à rien. Il m'a dit, c'est pas ça que je veux. Ce que je veux, c'est qu'on retrouve la relation qu'on avait au début. Et donc, j'ai compris que l'activisme, c'est pas ça que Dieu veut. Ce qu'il veut, c'est qu'on ait une relation avec lui. Et dans la relation, il va nous donner les œuvres préparées d'avance pour nous. Voilà, fais ça, fais ça, fais ça. Et ça, c'est lui qui le donne, c'est pas nous. Donc, il faut faire très attention. Qui vous donne des activités? Est-ce que c'est un homme ou est-ce que c'est Dieu?
C'est une bonne question.
Merci Daniel.
Je vous en prie. Mais vous voyez que le Seigneur a permis que je tombe malade. Il avait tout programmé parce que je l'ai eu dans mon verset. 4 mois et 11 jours, prends patience. Ressaisis-toi. Et j'étais guéri au bout de... parce que je ne pouvais rien faire. Je traversais la rue avec le chien, hop, les transaminases remontaient. Donc j'étais sur un fauteuil, allongé, et il y avait une fente au plafond, je me rappelle. Et je lisais aussi Solzhenitsyn, et dans Solzhenitsyn, il y a un passage, vous savez, qui était au goulag, et les gens dans la rue étaient arrêtés comme ça. Hein. Et il y a une phrase qui dit, arrêtez, vous êtes arrêtés. Se peut-il que quelque chose en vous ait tenu le coup? Hey, on peut être arrêté dans sa vie brutalement. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes prêt? La question est posée. Et nous allons tous y passer. Est-ce que vous êtes prêt? Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu.
Amen.
Amen. Amen, amen. Les activités, c'est une chose. C'est pas aux hommes qu'on doit plaire.
Exactement.
C'est à Dieu. À personne d'autre. Oui.
Si je peux permettre un petit mot.
Oui.
C'est que dans notre culture et dans nos traditions, on a toujours dû travailler au mérite.
Oui.
Tu es récompensé pour. Et c'est resté, mais en, sans gauche fichier. Et c'est neuf, c'est à toi que j'appartiens.
Alors le mérite, c'est bien que tu le dises. Travailler au mérite. Et c'est pareil dans les églises. Hein. Moi, j'ai vu beaucoup de choses. Je vous dis, ça, c'est l'esprit de Yavan. C'est la concurrence. L'esprit de Tzion, c'est pas ça. L'esprit de Tzion, c'est chacun à sa place, chacun à son travail. Et le Seigneur, je suis en train de dévier, mais tant pis. Le Seigneur est en train de tailler des pierres vivantes à droite, à gauche. Il les taille en dehors du temple. Il les taille, on n'entend pas les coups, il les travaille, il les forme, et ensuite, il les assemble comme il veut. C'est-à-dire qu'on fait connaissance d'autres pierres vivantes. Parce que toutes les personnes d'une église ne sont pas des pierres vivantes, je vous le dis. Et les vraies pierres vivantes, elles se reconnaissent, elles forment l'épouse. Dans l'église, il y a une partie de l'épouse, mais l'église n'est pas toute l'épouse. Et c'est la vérité. Hein? Alors, c'est à nous à reconnaître. Et quand on rencontre une pierre vivante, on l'a rencontrée nous cette semaine, mais je ne vous dis pas que pas, parce que c'est vraiment privé, mais quand on rencontre une vraie pierre vivante et qu'on en est, on est fusionnel. La personne qu'on a rencontrée nous a dit, c'est comme si je vous connaissais depuis toujours. Voilà. Et c'est comme ça. Allez, on reprend. Alors, un vav avec un shiva, un he avec un alon, aleph avec un ilon, et puis un shin. Alors, c'est l'homme ou la femme ?
L'homme.
C'est l'homme. Ish, isha. D'accord ? Donc, ici, vous avez V-A-Ish. V-A-Ish. Le A qui est... Alors, ça veut dire E. Hein, le Vav, c'est un E. Le A, c'est l'article. Mais je vous rappelle que l'article, c'est un A, comme ça, avec un... Pardon. Avec un A, bref. Et un dagesh ici dans la lettre qui suit. Mais comme le aleph ne peut pas prendre de dagesh, le A ici, donc on ne peut pas mettre ça, le A s'allonge. Donc on a l'article. Donc c'est, ça c'est le lalé, et ça c'est homme. Donc et l'homme. Et l'homme. Le mot qui suit, c'est son nom. Je ne vais pas le remettre.
Yaravan.
Voilà.
Yaravan.
Et l'homme, Yaravan. Alors, on va en apprendre un petit peu plus sur lui. Hein? Je vous rappelle, hein, sa maman est veuve.
Lépreuse,
donc cachée. Et lui, c'est un serviteur. Mm-hmm. Un serviteur de Salomon. Et il est Éphraïmite. D'accord? Alors, lui, donc, est l'homme. Alors, un guimel avec un dagesh dedans et un i, un bet avec un dagesh dedans et un o, et un resh. Mais ça marche avec le mot suivant. Donc, je vous le mets, c'est un chet, un alon, un yod, enfin un yod avec un i, et un lamed. Voilà. Et d'ailleurs, vous voyez le petit symbole, la petite flèche là, ça veut dire qu'on s'arrête de lecture à ce moment-là. Hein? Alors, comment vous lisez ces deux mots ? Gibor Chayil. Gibor Chayil. Alors, Gibor, ça veut dire que c'est un héros. C'est quelqu'un de vaillant. Ça devait certainement pas être un petit freluqué. C'était quelqu'un de costaud, de vaillant, mais aussi de très courageux. Fort, c'est comme un soldat, mais un chef. Vous voyez ? Pas n'importe qui. Quelqu'un qui avait de l'autorité. Un brave. Et Chayil, c'est la force. C'est la force des soldats. C'est le courage. C'est être brave.
Ça renforce.
Autrement dit, si on traduisait ça, on pourrait dire, moi je l'ai mis, capable de courage. La traduction, l'autre traduction, c'est un vaillant de force. Vous voyez ? Capable de courage. Donc, c'est quelqu'un qui... Voilà. C'est une autorité, si vous voulez. Ça se sent. Bon. Alors, comment est-il devenu serviteur de Salomon ? Allez, si vous étiez Salomon, comment vous feriez ? Un gars comme ça, ça se voit tout de suite. On repère. Ah tiens, en voilà un qui a de l'autorité. Quand il dit quelque chose, les autres, ils obéissent. Il y a des gens comme ça. Hein. Ils dominent très facilement. Bon, ben voilà, c'est lui. C'est Jéroboam. D'accord ? Alors, comment Salomon fait ? Eh ben, on prend les mots suivants. Un vav avec un abref. Un yod et un dagesh avec un abref. Abref, pardon. Un resh avec un sheva et un aleph. Et le mot qui suit, c'est Shlomo. Je mets en français. Pourquoi je le mets tout de suite ? Parce que quand il y a un verbe, le sujet est derrière. En hébreu. Hein, on met d'abord le verbe et le sujet. Donc, le sujet de ce verbe-là, c'est Shlomo. Alors, c'est quoi ce verbe ? Eh bien, c'est le verbe ra, qui veut dire voir, paraître, apparaître, regarder, monter, comprendre, remarquer, prendre garde, apercevoir, choisir. Et c'est à la forme pâle ici, à l'inaccompli avec un vav inversif dedans, devant, donc c'est accompli. Autrement dit, Shlomo a remarqué. Il a remarqué. Il a remarqué. On continue. Et. Et, c'est le COD. Complément d'objet. Donc, il a remarqué quoi ? Et. C'est embêtant parce que je dois avoir deux feuilles en même temps. Et, alors, un he avec un abref, un nun avec un dagesh et un abref, ein avec un abref, vous voyez, trois fois le abref, et un resh. Qu'est-ce que vous voyez là ? Et na ana anar. Et anar. Là, vous avez l'article. Il n'y a pas de doute là. On a l'article. Donc, ici, vous avez la racine, vous l'avez. C'est nar. Hein ? Donc, on va voir dans le dictionnaire. Et dans le dictionnaire, nar, ça veut dire jeune gens, jeune homme, serviteur, enfant. Un jeune garçon. Bon, ça devait être un jeune homme, on ne sait pas trop quel âge, mais on traduit ça par le jeune homme. Ah, il devait se repérer de loin, ça devait être... Vous savez que c'est comme le roi Saül, il dépassait tout le monde d'une tête. Il était blond, il dépassait tout le monde d'une tête. Et Dieu a dit, ben oui, Samuel, c'est lui là-bas. qui va devenir roi. Là, pareil. Donc, ensuite, on a qui ? Alors, un kaf avec un dagesh dedans et un ilon. Donc, qui ? Un tiré et ein avec un o, bref. Un sin, faites attention, le point est à gauche, avec un e et un he. Sin o c. Qui o c. Qui o c. Alors, osé, c'est le verbe assar qui veut dire faire. Faire, avoir, alors, disposer, exécuter, agir, entreprendre, acquérir, apprêter, pratiquer, c'est beaucoup de choses, hein. Et donc, ici, le « qui », on le traduit par « car ». Et ici, ben c'est un participe présent. Donc, on va traduire par « faisant ». Et il a remarqué, et Shlomo a remarqué le jeune homme, car « faisant », il faisait quelque chose. Alors, je continue. Qu'est-ce qu'il faisait ? Alors, que je me retrouve dans mes mots. Alors, on commence par un mem et un sheva. Lamed avec un halon. Aleph. Kaf avec un halon et un e. Melacha. Melacha, c'est un mot. Alors, la racine, c'est pas Meler. Hein. Non, non, on serait tenté de. Non, la racine, c'est Melacha. Donc, c'est une longue racine qui veut dire un ouvrage, une œuvre, un travail, un objet, une fonction, un service, des affaires, enfin. Voilà, il était en train de faire quelque chose. On peut traduire ça par un ouvrage. Très important, hein, pour remarquer quelqu'un, il faut le remarquer en train de faire quelque chose et que lui ne se doute pas qu'on le surveille. C'est comme ça qu'il faut repérer son conjoint. Je rigole pas. Quand vous voyez celui ou celle que vous espérez, sans qu'il s'en doute. Et vous voyez comment il se comporte. Vous voyez si c'est un fainéant. Vous voyez s'il sert les autres ou s'il se sert en premier. Vous voyez plein de choses. Et soyez discret. Si les jeunes, ils pouvaient savoir ça. Il faut leur dire, mais il faut qu'ils nous le demandent. Parce que les anciens, ils savent des choses, ils ont vécu. Pourquoi les jeunes, ils ne viennent pas voir les anciens ?
Parce qu'ils savent tout.
Parce qu'ils savent tout, bah, tant pis pour eux. Tant pis pour eux, ils ont des bricoles. C'est ce que vous voulez qu'on y fasse. Allez, on continue. On continue, on met un « hé ». avec un ou et un aleph. Ou comme ça, ça veut dire lui. Lui. Autrement dit, il est en train de faire un ouvrage. Donc Salomon le regarde et il dit, celui-là, il vaut le coup. Il travaille bien. Vous voyez ? Bon, après, il va avoir des ennuis avec lui, mais je veux dire, voilà. Hein ? Il ne l'a pas fait venir dans son bureau en lui demandant, qu'est-ce que tu sais faire ?
Il l'a vu.
Montre-moi ton CV. Non.
Il l'a regardé.
C'est vraiment important, ça.
Mais c'est très important.
C'est ce que tu dis là, c'est capital.
Et dans le temps, il y avait des techniques d'embauche qui étaient terribles. Maintenant encore, mais enfin, c'est plus vicelard. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils font venir 10 personnes à la même heure pour le même rendez-vous.
J'ai vécu ça.
Et puis il y a une caméra qui surveille et ils essayent de voir qui devient le chef de tout ça.
Ah bah oui, hein.
Bah évidemment.
Celui qui parle en public.
Moi je connaissais un chef d'entreprise, c'est vieux, hein, ça remonte à 45 ans, hein, 50 ans. Il embauchait un jeune ingénieur. Puis au bout de 8 jours, il l'appelait dans son bureau, puis il l'engueulait comme du poisson pourri. Pour rien. Juste pour voir son caractère. Si le gars, il s'effondrait, il le mettait dehors. Moi, j'ai connu...
Et s'il a ramené, comment ça se passe ? S'il a ramené trop ?
Ah ben moi, je vais vous dire un autre exemple. J'avais un étudiant... Il y avait une place qui était offerte dans une grande surface, mais ça remonte à 50 ans, hein, ça 45 ans. Et il y a donc rendez-vous avec d'embauche. Et là, au bout d'un petit moment, le gars de l'entreprise se lève et se met à l'engueuler en anglais. Ben, mon étudiant, il ne s'est pas démonté, il lui a répondu en allemand. Alors le gars, il lui a dit, ben, je vous prends. Et l'autre, il lui a dit, ben, moi, je viens pas.
Quel chef étudiant.
À l'époque, on pouvait le faire.
Oui, maintenant, moi.
Mais ils ont des techniques terribles. Hein.
C'était dur. Hein.
Oui, 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 oui. Alors, on continue. Alors, Vav, avec un A bref, Yod, avec un dagesh dedans et un A bref, un P, ou plutôt un F, ici, avec un Sheva, un Kof, avec un E, et un Dalet. Alors, ici... Vous lisez ce mot, hein? Vayafked. Vayafked. Il y a un vav devant. Le yod nous montre que c'est une conjugaison. Hein? Ici, vayafked, c'est une forme, c'est un verbe à la forme ifil, c'est-à-dire lui faire la chose. Hein. C'est à l'inaccompli troisième personne du masculin singulier avec un vav inversif devant. Donc c'est de l'accompli. Et le verbe, c'est... alors, c'est le verbe pakad, qui veut dire dénombrer, punir, châtier, se souvenir, oublier, établir, surveiller, vous l'aurez, hein. Voilà. Autrement dit, Salomon l'établit ici, il l'établit comme surveillant. Ça devient un chef, et je vous rappelle que c'était un serviteur, donc il l'établit surveillant des serviteurs. D'accord ? Appelez-le manager si vous voulez, mais vous allez voir que c'est beaucoup plus grave. Donc, il établit auto, le mot aleph avec un O bref, un tav et un O long. Donc, auto, ça veut dire lui. Il établit lui. Donc, si vous voulez, la première partie, c'est un et, c'est le COD. Mais le O, c'est lui. Donc, il établit qui ? Lui. Non, c'est pas pareil, mais il y a deux façons de le dire. Oui, oui. Non, mais tu as raison. Bon, mais je veux pas faire de grammaire, c'est pour ça qu'on complique pas trop les choses. On ferait que ça, et puis c'est pas marrant du tout. Donc, il établit lui. Alors, le mot suivant. Un lamed avec un sheva. Un kaf avec un alon. Et un lamed. Ensuite, un tiré, un samer avec un e, un bet avec un ségol et un lamed. Je continue parce que tout est attaché. Un bet avec un dagesh dedans et un e, un yod, un tav. Et enfin, le dernier mot, un yod avec un O long, sa mère avec un E et un F ou un P final, comme ça. Et puis on termine par deux points, c'est la fin du verset. Alors, vous voyez que sur le texte, il y a encore une lettre derrière. Alors, je vous explique. Vous savez que le peuple d'Israël a découpé la Torah, c'est-à-dire les cinq premiers livres de la Bible, en 54 morceaux. Et chaque semaine, on en étudie un morceau. Tous les juifs du monde étudient le même, 54. Oui, il y a 52 semaines, mais il y a 54 morceaux, parce qu'il y a les années en bolistique. C'est-à-dire que certaines années, il y a 13 mois. Bon, c'est compliqué. Oui. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça s'appelle les parachas. Alors, en hébreu, c'est parachot. Et alors, on ne dit pas parachiot. Il y a des gens qui disent parachiot. C'est parachot. C'est clair ? Bon. Ici, vous avez une lettre. C'est simplement indication que c'est la fin de la paracha. D'accord ? Donc, c'est un morceau de paracha qu'on est en train de faire là. Alors, on lit ça. L'échol. Alors, ouais, là on va lire O. Hein. C'est un O, ça. Bon. On ne dit jamais chal, ni cal, mais col. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça. Non, mais je vous vois venir avec vos questions. Non, il y a certains endroits où le A se dit O. Alors, l'Echol Sevel Beit Yosef. Il l'a établi, lui,
surveillant des serviteurs,
pour tout Sevel charge, pour toute charge de la maison de Yosef. Alors là, il faut maintenant qu'on parle un petit peu. Il faut qu'on parle. Oui.
Tu dis c'est comme ça le col et le cal.
Oui.
Mais pour les Hébreux, pour eux, ça fait quelque chose de...
Oui, c'est une règle de grammaire.
Ah ouais, ça va.
Voilà. Mais je la retiens jamais.
Ouais, donc c'est comme ça. C'est comme chaud.
Un linguiste comme Raïm vous expliquerait ça très bien.
Hein? Il n'est pas linguiste, il a dit qu'il était grammaire.
Oh pardon, excusez-moi.
Il n'est pas linguiste, il a dit.
Mon prof d'hébreu, c'est un linguiste, lui. Il parle je sais combien de langues. Il ne vit que dans des livres. Il n'est pas marié, il vit au milieu de ses livres.
Ouais, enfin,
il est très heureux.
Ah
bah oui. Il a plein de livres.
Ouais, il est heureux.
Ah oui.
Il les a regardés avant de les lire.
Mais c'est tous des livres rares. Il est dans plein de langues. Enfin. C'est certainement un surdoué parce que c'est... Bon, enfin bref. Alors, le mot traduit par ici, Sevel. Sevel, écoutez, ça c'est grave parce que ça veut dire esclavage. Autrement dit, Salomon avait mis la tribu de Yosef en esclavage.
Ah d'accord, ça y est.
Et il avait pris l'un d'entre eux, qui s'appelle Jéroboam, comme chef des esclaves. Vous comprenez ?
Oui, d'accord.
Ah, d'accord. C'est une faute de...
Donc, bien sûr, il avait toutes ses femmes, on en parle tout le temps, mais ça, si c'est pas grave. Et vous comprenez pourquoi il y avait une telle haine entre le royaume du Nord et le royaume du Sud, après. Supportait plus. Parce que finalement, c'est quoi ? C'est la tribu de Juda qui soumet la tribu de Joseph. Les tribus de Joseph. Enfin, c'est quelque chose de fou. Et c'est comme si Salomon était retourné en Égypte. Il se prend pour Pharaon. Alors, c'est très important. Alors maintenant... On ne va peut-être pas avoir le temps de faire le dernier truc en hébreu, mais quelque chose de très important. Il faut que je vous en parle. Je vous lis 1 roi 11, 30 et 31. Vous savez qu'à un moment donné, il y a un prophète... qui va aller rencontrer Jéroboam. Bon, ce prophète s'appelle Ahia. Ahia. Bon. Ahia. Ouais. Et qu'est-ce qu'il voit ? Il avait un manteau sur lui, ce prophète. Et quand il voit Jéroboam, il prend son manteau, saisissant ce manteau neuf, il le déchira en 12 lambeaux. Et dit à Jéroboam, prends pour toi 10 de ces lambeaux, car ainsi a parlé l'Éternel, Dieu d'Israël, je vais arracher le royaume de la main de Salomon, et je t'en donnerai 10 tribus. Vous remarquez le mot lambeau. C'est pas brillant. Hein? Maintenant, vous allez voir, c'est terrible. On va le voir en hébreu. Et ça, vous ne pouvez pas le voir en français. Pas de danger. Le mot manteau qui est utilisé dans ce verset, parce qu'il y a plusieurs façons de dire manteau. Hein? Le mot manteau, ici, c'est un shin avec un abref, un lamed avec un sheva, un mem avec un abref et un he.
Dans la,
non, non, c'est pas dans le verset là-dedans.
Ah,
non, c'est dans 1 Roi 11, 30.
Je l'ai aussi. On l'a.
Tu l'as là, 11, 30.
Il
l'a ici. Là.
Oui, mais je vous en ai mis qu'un.
Tu l'as écrit exactement pareil, mais avec un là, un signe.
Ah, c'est peut-être moi qui me suis trompé. Oui. Ah, faudra corriger dans mon explication. Donc c'est un signe. Bon, c'est pas grave parce que je vais vous dire. Si vous aviez un tanar officiel, il n'y a pas de voyelle. Donc il n'y a pas de point, il n'y a pas de trait, il n'y a rien. D'accord? Alors ça veut dire manteau. Comment vous lisez? Salma. Je l'écris. D'accord? Maintenant, je reprends les mêmes lettres. Je ne mets pas de voyelle, le rien du tout. Voilà, j'écris les lettres. Et maintenant, je vais sur ces lettres. Donc c'est ça que vous lisez dans la Bible. Hein? Vous êtes d'accord? Oui.
Excuse-moi, dans le verset, tu as marqué Bachalma.
Oui, dans le manteau.
Dans le manteau.
Oui. Mais le manteau, c'est ça. Hein? Maintenant, regardez. Je prends ces lettres et je vais mettre les voyelles. Alors, je mets un point là. Sheva, un O ici et un O là. Et vous avez quoi?
Shlomo.
Shlomo. Qui est-ce qui a été déchiré en 12 morceaux?
Le royaume de
Salomon. C'est Shlomo lui-même. C'est pour ça que je vous disais, il a perdu son âme à la fin. Il est réduit à des lambeaux. Vous avez compris? Ça, vous ne pouvez pas le voir en français. C'est pas possible. Donc, qu'est-ce qui se passe? Au moment où ce prophète vient, il déchire le manteau, c'est comme s'il déchirait Shlomo. Autrement dit, il lui retire la royauté. Il est déchu. Et il est fracassé en 12 morceaux à cause de son péché.
Parce qu'il a rendu esclave.
Parce qu'il a trop de femmes, des chevaux. Alors des chevaux, vous savez combien il y en avait? 40 000 chevaux.
Oh là là.
12 000 cavaliers.
C'est dans ton t-shirt.
Ah oui, il faut pas que j'écrive sur mon costume.
12 000 cavaliers et 3 tâches.
12 000 cavaliers, 40 000 chevaux, 1000 femmes, enfin épouses et concubines. Ça fait beaucoup quand même.
L'argent et l'or.
Et au bout du compte, on a le résultat. On a le résultat. Pourquoi Salomon s'est écroulé? Mais j'allais dire, ça s'appelle de l'iniquité, parce que ça envoie. Qui est-ce qui paye? Qui est-ce qui paye? C'est le peuple, hein? Et vous voyez que pour nous, c'est très important. Alors, je vais continuer à donner quelques explications. Le verbe déchirer. Le verbe déchirer se dit kara. Donc je l'écris. Un kof, avec un alon. Un resh, avec un alon. Avec un abref, pardon, le premier. Et puis, un ein. Ça veut dire déchirer. Donc, quand il déchire Salomon, ou le manteau, eh bien, vous savez que le peuple d'Israël a une technique toujours, c'est qu'il prend ses lettres, et puis il dit, mais avec ces lettres-là, on peut faire un autre mot. Hein. Allez, on va faire un autre mot. Ein, avec un alon, kof, avec un abref, et puis le resh. Vous voyez, c'est les mêmes lettres, hein. J'ai simplement permuté et ça devient akar. Ça, c'est déchiré. Tu deviens akar, qui veut dire stérile. Voilà. Donc Salomon, ça, à la fin de sa vie, c'est une catastrophe, quoi. Hein? Et vous savez qu'il y a plusieurs... Il faut faire très attention au mot. Malheureusement, dans nos traductions, on dit « il y a un manteau ». Un manteau, c'est un symbole d'autorité. C'est, voilà. Mais il y a différents manteaux. Regardez, ici, j'écris un autre mot. Ça commence par un « aleph » avec un « alon », un « dalet » avec un « ségol », un « resh » avec un « ségol », et un « et » final, enfin un « et » pardon, un « tav », excusez-moi, un « tav » à la fin. Adéret, c'est le mot qui veut dire manteau, mais c'est le manteau d'Élie. Vous voyez que c'est pas le même, hein? C'est le manteau d'Élie et ça vient de la racine « adar ». On voit les trois premières lettres, hein? « Adar ». Qui veut dire puissant, fort. Pas pareil, hein. C'est aussi le mot qui est utilisé, vous savez, quand Achan, à Jéricho, a volé dans les ruines de Jéricho, il a volé trois choses. L'or, l'argent et un beau manteau de Shinéar, donc de Babylone. Eh bien, le manteau, c'est ça. Adéret.
C'est la puissance.
Autrement dit, voilà, c'est ça qui est grave, c'est qu'il avait pris la puissance de Babylone chez lui. Et c'est comme ça que la puissance d'Israël était tombée, puisqu'ils ont voulu prendre la ville d'Haï et ils se sont fait massacrer. Il y a eu, je crois, 36 morts. Hein, 36 soldats sont morts. Parce que Achan avait pris chez lui la puissance de Babylone. Vous voyez, quand Dieu nous donne sa puissance à lui, on ne doit pas chercher une autre puissance.
C'est incroyable parce que tu dis que dans l'Ecclésiaste, c'était à la fin de sa vie.
Oui.
Quand on voit comment il est rempli de sagesse dans ce livre,
oui.
Et qu'en fin de compte, mais c'est le contraire.
Oui, mais on peut. Il y a beaucoup de gens qui. À la fin de leur vie, ils deviennent une sorte de philosophe. Ils parlent. Et puis, mais la réalité de leur vie est complètement différente.
Ah,
et quand, à la fin de sa vie, il a pris du temps pour avoir autant de chevaux. Il a pris du temps pour avoir autant d'épouses. Ça veut dire qu'il a fait des alliances politiques. C'était des princesses. Hein. C'était pas n'importe qui. Hein. Attention. Hein. Et donc, ça a pris du temps. Et puis alors, une dernière chose. C'est qu'il y avait certainement, ça on a vu trois causes à sa chute, il y en avait certainement une quatrième que je vous explique. Parce que il a écrit des milliers de proverbes. Proverbe en hébreu, ça se dit Michelet. Et ça, la racine, c'est machal, qui veut dire exemple. C'est-à-dire que quand quelqu'un est nommé, désigné, responsable d'une communauté, peu importe laquelle, il doit être un exemple. Il doit être un exemple. Celui qui dirige les autres, parce que quand il donne des proverbes, c'est pour diriger les autres. C'est des conseils qu'il nous donne. Celui qui dit, et s'il ne fait pas lui-même ce qu'il dit dans ses leçons, eh ben, y a quelque chose qui cloche. Et quand actuellement, même encore, quand un peuple découvre que son président, n'importe qui, est un truand, il est en colère, le peuple, parce qu'il devrait être un modèle. Alors, le mot maître, Adon, hein. La racine, c'est Adan, qui veut dire socle. Socle. Un socle se met en dessous de la construction. Donc, l'Adon, le maître d'une communauté, doit se mettre en dessous. Ça veut dire, et c'est le Seigneur qui l'a dit, quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Vous voyez ? Alors ça, c'est important de le comprendre. Un socle doit porter la construction, il ne doit pas l'écraser. Que le Seigneur vous bénisse. Hein. Ne vous sauvez pas, vous allez avoir le texte. Oui, vas-y.
Il n'avait pas là, mais tout.